Bienvenue ici, avec vos pieds, ici, avec vos oreilles. Ici, pour découvrir une promenade sonore. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler le volume de votre appareil. Vérifiez que votre casque est dans le bon sens. Vous devez m'entendre dans l'oreille droite. Si ce n'est pas le cas, tournez votre casque. Voilà. Vous m'entendez bien dans l'oreille droite ? Parfait. Dans cette promenade, je serai votre guide. Je vous donnerai les indications de départ et de direction. Si toutefois vous arrivez avant moi à une bifurcation, attendez-moi. Je suis juste derrière vous. Si vous avez un doute, attendez-moi. Pendant cette balade, prenez votre temps. Nous allons adopter un pas tranquille. Alors, levez les yeux, ouvrez les oreilles et laissez-vous guider par l'écoute. Bienvenue ici, à l'écoute des histoires d'eau de Saint-Julien le Montagnier. Ici, de l'eau, il n'y en avait pas. Ici, maintenant, il y a des châteaux pour cette précieuse. Ici, autour de cet éperon rocheux, les hameaux s'étalent et s'étendent. Ici, les voix de ceux qui vivent s'écoulent jusqu'à vous. Et il est temps que nous nous mettions en marche. On y va ? C'est parti. Face à vous, la montée du vieux village, prenez-la. Notre premier repère sera la maison que vous allez bientôt voir.
J'habite à Saint-Julien.
J'ai une asservie.
J'habite à Ville.
Au Jas des Hugo.
Vieux village.
Face à vous, une maison. Aujourd'hui, ses volets sont bleus. À la gauche de la maison, un petit chemin. Prenez-le. Il nous permettra de longer le village.
On mourra à Saint-Julien.
On mourra.
Route de l'Éclou.
Les Rouillères.
Les Pontiers.
À Saint-Pierre.
Les Maillons.
Prenez le petit chemin sur la gauche de la maison.
À Saint-Pierre.
Chemin de Quinçon.
Chemin des Plaines et les Bernes.
Au Vallon de l'Éclou.
Route de l'Éclou.
Au Vallon de l'Éclou.
Vous êtes dans le petit chemin.
La commune de Saint-Julien, donc c'est une commune qui est relativement étendue, hein, puisqu'elle s'étend sur un peu plus de 76 km², et avec une urbanisation qui est une urbanisation assez particulière, puisqu'on a environ 28 hameaux et 6 lotissements.
Pour les hameaux, c'est facile. Comme à l'époque, il n'y avait que des agriculteurs. Quand avec les chevaux, parce qu'il n'y avait pas les tracteurs, tous les soirs, il fallait remonter de la plaine. Et le matin, il fallait partir. C'est pour ça que vous trouvez des petits cabanons. L'être humain dormait avec le cheval pour ne pas faire tout ça. Et en 1929, l'ancien maire de l'époque, Philibert, le grand-père de Dédé, a décidé de descendre tout ce qu'il y avait ici. Et donc, ils ont descendu. Il y a eu la guéguerre, hein, comme on dit, entre les gens de Les Rouillères, de Saint-Julien et de Saint-Pierre. Et tous les agriculteurs étant en bas, ils ont choisi le point central. Voilà d'où Saint-Pierre, le hameau, commune de Saint-Julien-la-Montagnée. Et pour ne pas froisser, je pense, les gens, c'est un avis personnel, on a gardé le nom de Saint-Julien-la-Montagnée.
« Sur votre droite, dans quelques mètres, un escalier. Prenez-le, nous allons rentrer dans le cœur du village.
Le lavoir de Fondicard, c'était un lavoir qui était vraiment moderne en fait, parce que les gens ne pourront plus laver à genoux, ils laveront droit.
En haut de l'escalier, c'est à gauche. Vous êtes dans la rue des Templiers.
Le lavoir, il est maçonné de façon à ce que la lavandière ne soit plus sur sa caisse avec de la paille, avec les pieds dans les sabots. C'est fini. Donc on peut rincer, on peut laver, on peut faire bouillir, on peut faire la bugade.
Sur votre droite, un escalier, prenez-le.
Et en plus, c'est de l'eau de source qui arrive derrière le lavoir, dans un réservoir, avec une fontaine. Donc là, ils ont refait aussi les toitures. Et ce qui fait que ce lavoir, c'est une merveille. Il est entouré de grands chênes. Il faut regarder, il faut lever la tête. C'est merveilleux. Et vous pouvez prendre le tronc de ce chêne à 5 ou 6 personnes.
Les marches ont vécu. On les monte en prenant son temps, en se disant que bien d'autres, avant nous, ont fait pareil. Arrivé en haut, sur votre gauche, une fontaine. Si vous ne la voyez pas, cherchez-la. N'hésitez pas, buvez.
Mon arrière-grand-père, qui habitait à Mallory, est arrivé là-haut en 1870. Il a été veuf au bout de 2 ans, et avec 2 gosses. Et mon arrière-grand-père donc avait acheté un joug, comme pour les bœufs, avec un seau de chaque côté. Et la fille aînée, qui faisait 1,85 m, 1,90 m, elle allait à l'eau, à la source de Bocasse. Elle faisait 8-9 voyages comme ça par jour. Parce que l'été, le puits, il ne tenait pas. Il y avait des animaux, il y avait une chose ou l'autre. Et donc, quand c'était l'aînée et qu'elle était grande, elle faisait les voyages à la place de trouver le robinet.
À côté de la fontaine, un banc, très long. Il vous invite à contempler le paysage. Installez-vous, nous vous dirons quand repartir.
Autrefois, à Saint-Julien, on n'avait pas l'eau. On vivait uniquement avec des citernes, et encore. Et le village, le vieux village, a été abandonné parce qu'il n'y avait pas l'eau. Bon, maintenant, on a 5 châteaux d'eau, on arrose toute la région. Donc il y a un renversement qui est assez phénoménal.
Ici, sur le rocher, il n'y en a pas de l'eau. Et les gens ont pourtant décidé de venir habiter ici. Et du coup, l'eau était précieuse. Et dans la maison de mes parents, à la cuisine, il y a une pierre déviée, il n'y avait pas de robinet. Et il y avait, avec un seau et une corde, la possibilité de puiser de l'eau dans la citerne qui était à la cave sous la cuisine. On l'utilisait pour la vaisselle. Et dans la pierre déviée, il y avait un trou d'évacuation, mais dessous, il n'y avait pas de réseau. On mettait des bassines. Et ensuite, l'eau des bassines était savamment réutilisée pour rincer la serpillière, etc. Mais là encore, on ne la jetait pas, on la descendait au jardin et on arrosait les quelques plants, les fleurs, etc. Il y avait une espèce de culte de l'eau comme étant un élément précieux, rare, etc. Et c'était assez intéressant quand on le compare à l'usage aujourd'hui, où quand on ouvre le robinet, l'eau arrive, c'est automatique. Les gamins, aujourd'hui, seraient à 1000 lieues de soupçonner à quel point la goutte d'eau était précieuse et tout ce qu'on pouvait en faire.
On reprend notre promenade. Je vous laisse vous lever. Quitter le banc, lui tourner le dos pour prendre la rue qui est à droite sur cette place du four.
Je me souviens très bien de l'arrivée de l'eau à Saint-Julien. J'étais adolescente, c'était dans les années 60 Et jusque-là, quand je venais en vacances avec, chez ma grand-mère, on avait une citerne et on n'utilisait que l'eau de pluie. Bien sûr, l'arrivée de l'eau a été un véritable bouleversement, puisque à partir de là, d'abord on n'économisait plus, et puis on pouvait enfin avoir une salle de bain.
Dans cette rue, sur votre gauche, prenez la rue de la Calade. Montez là tranquillement. Et en haut, vous prendrez à droite.
Voilà, c'était les toilettes. C'était le tout à l'égout aussi. Donc c'était des WC, c'était des salles de bain. Et ça, c'était vraiment une nouveauté extraordinaire. Puisque avant, les toilettes, c'était dans le jardin au bout de la rue. Donc on avait des toilettes sèches. Et ma grand-mère faisait du fumier pour faire pousser les légumes.
En haut de la Calade, c'est à droite.
Mois d'août, c'était le moment le plus dur où il fallait parfois que la commune fasse monter des camions avec de l'eau pour faire la jonction, ou bien il fallait descendre à la fontaine, justement, là où s'il y avait une source, pour ramasser de l'eau. Mais c'était pénible, parce que c'est pas rien de descendre et de remonter l'eau, c'est pénible, là. Mais ils ne gaspillaient pas, c'est-à-dire que la lessive, on ne la faisait pas dans la maison, on la faisait à la fontaine.
Face à vous, un chemin, la traverse des roses trémières. Elle va vous guider jusqu'à la place de l'église, sur laquelle nous resterons quelques minutes.
Ma mère me racontait toujours qu'une fois par mois, il descendait avec l'âne, il mettait le linge sale, il prenait de quoi camper une nuit en bas pour pas faire les allers-retours. Il faisait la lessive, il la séchait dans les champs et 48 heures après, il remontait avec le linge, le gros linge. Voilà, le linge, en fait, le gros avec le linge parce qu'il se changeait pas tous les jours.
Nous sommes devant l'église. Nous allons rester là. Quelques gouttes d'eau ou le temps d'une vaisselle.
J'ai transformé la citerne en salle de bain. Alors vous fermez les yeux sur la cuisine ancienne. Et ça, c'était la cuisine de ma grand-mère. Et ça, c'était la citerne. Là, on est sous la rue. Hein. Donc, c'est une voûte moyenâgeuse sous la rue. On tirait l'eau à la porte et l'eau arrivait du toit de ce tuyau, arrivait de la toiture. Donc, quand il pleuvait, ma grand-mère enlevait le tuyau, détournait l'eau pendant un quart d'heure ou demi-heure pour que ça rince la voiture. Puis au bout de demi-heure, elle branchait l'eau dans cet espace et ça se remplissait. Ma grand-mère, oui, elle avait deux rapports avec la pluie. Le premier rapport, la pluie, pour elle, c'était positif, bien sûr, puisque ça arrosait le jardin, ça apportait de l'eau dans la citerne. Pour elle, c'était positif. Et un deuxième rapport, c'était qu'elle avait la terreur des orages. Je me souviens qu'elle était terrorisée par les orages. Plus que moi, enfant, elle exigeait qu'on reste dans le noir, assis sans bouger, tant que l'orage n'était pas passé, parce que pour elle, c'était un vrai danger. Il faut dire qu'on a souvent des orages très violents, entre autres sur l'église, puisque l'église a été plusieurs fois incendiée et que l'orage, la foudre est tombée dessus. Et, Et donc, c'était une sorte presque de terreur religieuse, quoi, comme si c'était Dieu qui risquait de... Voilà, moi, ça me faisait rire quand j'étais enfant, et elle se fâchait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, en 2016, je crois, ben, notre maison a été frappée dehors, on le voit sur la façade, par la foudre qui a fait un arc entre l'église et ma façade. Et qui a fait un trou comme ça dans la façade.
Mais quelle heure est-il ? Il est temps de reprendre notre marche. Nous allons au château d'eau. En longeant l'église, vous arrivez à la route. Le château d'eau est à gauche. Ça grimpe un peu. S'il fait chaud, vous pourriez rêver du lac d'Esparron.
Le rapport au lac, ben les gamins adorent y aller. Le problème, c'est qu'on est loin du lac. Il y a une grande forêt à traverser. C'est très distancié. C'est un peu désagréable l'été parce qu'il y a trop de monde. On a l'impression que l'Europe entière vient se baigner là. Alors du coup, les habitants du village ont une approche du lac qui est un peu plus réservée. Nous, en famille, des fois, on y va le soir pour dîner, au moment où le soleil se couche, et on remonte de nuit. Et bon, évidemment, c'est pas trop bronzé, mais c'est génial. Et pas mal de gens ont des attitudes un peu de ce type vis-à-vis du lac, une espèce de promenade d'hiver, de distanciation l'été par des horaires bizarres.
Vous arrivez au château d'eau. Il est sur votre droite. Nous allons monter par l'escalier en fer. Au sommet du château d'eau, nous prendrons notre temps et nous vous dirons quand repartir.
Il est vrai qu'il y a le canal de Provence qui a été créé, qui a arrosé ville. C'est quand même formidable, c'est fantastique. Tout le long, l'agriculture s'est développée parce que ça sert aussi à l'agriculture. Et c'est pas fini parce qu'il y a des tas de travaux prévus. Donc c'est un canal qui a beaucoup apporté. Mais c'est toute une zone qui a été inondée.
D'ailleurs, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ?
Oui, pourquoi pas.
Ça a été fêté en 2017, les 50 ans de l'arrivée de l'eau. Et en même temps, la même année, il y a eu le barrage qui est sur le Verdon, qui a permis la création du lac d'Esparron de Verdon. Donc en une année, il y a eu une espèce d'explosion du comportement vis-à-vis de l'eau, y compris en termes de baignade, d'autant plus que je crois que ça correspond à peu près à la création de la piscine communale à Saint-Julien. Et dans une région où on ne se baignait pas, où on ne connaissait pas beaucoup l'eau, etc., est devenu un lieu où les gamins ont appris à nager, la promenade au lac est devenue le must, et en même temps, il y a eu l'eau dans le village.
Sa vocation, c'est de puiser de l'eau dans le canal de Provence.
Clocianov, c'est le syndicat intercommunal d'alimentation en eau du Nord-Ouest varois.
De la potabiliser et de la transporter vers les réservoirs qui sont implantés sur chaque commune. Et ensuite, à partir de là, la distribution vers les consommateurs, vers les habitants, se fait par le biais du réseau communal. Mais le syndicat, lui, il potabilise et il transporte l'eau vers les châteaux d'eau dans chaque commune.
L'eau est arrivée il y a une cinquantaine d'années. C'était à cette époque-là, il y avait un maire très dynamique qui a laissé une trace que même ses ennemis politiques reconnaissent. Gianetti est reconnu de tout le monde. Gianetti, c'était un maire qui est arrivé. C'était une bonne personne au bon moment. Saint-Julien avait besoin un petit peu qu'on le secoue. Et Gianetti avait des envies. On peut dire que les trois quarts de ce qu'on voit actuellement sur la commune, c'est des choses qui ont été créées par Gianetti. Le foyer rural, la piscine, tout ça, c'est toutes les choses qui ont été créées par Gianetti. Et l'histoire de l'eau, alors n'en parlons pas, c'est vraiment pour lui, il en a fait des vins et des cents, je suis un porteur d'eau, etc., etc. Gianetti, c'était la grande folie, quand même. Mais c'est vrai que Gianetti, c'était la bonne personne au bon moment.
C'était un personnage très visionnaire. Réaliser un réseau de 85 km de tuyaux, plus les usines, plus les stations intermédiaires, plus tout ça, je pense que c'était quand même quelque chose de très très important. Avant ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était des citernes, c'était des puits, c'était des sources, des machines comme ça. Mais il n'y avait pas de réseau, de ressources de surface pérennes pour alimenter les populations et pour pouvoir prévoir une évolution de la situation, une évolution de la démographie, etc., etc.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le Verdon et le canal, on a la régularité. Donc maintenant, l'eau, elle est abondante, elle est régulière. Donc c'est quelque chose de... un progrès monumental.
Alors d'abord, on va prendre l'eau, par exemple, du lac d'Esparron. Après, on va l'amener à la station de potabilisation du Mallory, où elle sera potable après.
Il y a donc deux usines de potabilisation. Une usine, la principale, qui se situe à Mallory. Alors Mallory, c'est entre Saint-Julien et Vinon. Et il y a une deuxième usine qui se situe à Riens.
On va envoyer l'eau grâce à de grosses pompes au gros château d'eau de Saint-Julien. Les gros châteaux d'eau, ils vont envoyer de l'eau vers Ginaservi. Et un peu plus haut, au château d'eau, où, au-dessus, il y a la table d'orientation. Après, quand on ouvre le robinet, l'eau, elle vient.
Alors là, nous sommes à la station de traitement des eaux, donc station de Mallory. On rentre dans cette première tour. Après, l'eau passe dans les filtres à sable, descend donc dans la station. Et vont dans la bâche en bas. Une fois qu'elle est filtrée, on la stérilise, on y met du chlore dedans, donc c'est un gaz qui stérilise l'eau et qui reste dans l'eau tout au long du parcours jusqu'au robinet. Voilà, on va aller faire un tour là.
Il la nettoie un peu plus et il les fait, on passe par des tuyaux et ça arrive à nos robinets.
Là, c'est les trois pompes qu'on est en train de remettre un petit peu à neuf. Quand les pompes se mettent en route, on aspire de l'eau qui se trouve dessous nous. On appelle ça une bâche. Donc on aspire, on accélère, on refoule dans le refoulement, dans ce tuyau-là. Et ce même tuyau, il arrive à Saint-Julien, où c'est qu'il y a les trois réservoirs.
L'eau, il ne faut pas l'utiliser jusqu'à sa fin. Sinon déjà, qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'eau. Mais c'est déjà, il faut penser à eux. Et après, ça coûte très très cher l'eau.
Et si nous redescendions ? On y va. En bas des escaliers du château d'eau, prenez la route sur votre droite. Soyez attentifs, vous verrez bientôt une boîte aux lettres avec le numéro 144 sur la gauche de la route. Là, au bout du petit Meuret, un petit chemin, prenez-le. Il vous emmène à une petite rue que vous prendrez à droite. Vous y êtes ? Vous êtes au cœur du village. Nous vous laissons aller jusqu'au figuier. Il est à quelques mètres. À gauche du figuier, un petit chemin un peu accidenté. Prenez-le. C'est une calade, peut-être recouverte d'herbes folles. Suivez-la, jusqu'en bas, jusqu'à la rue que vous prendrez sur votre droite. C'est à droite, nous allons vers la porte et l'aire de Gourdane.
Les jeunes du village s'amusaient ensemble, et voilà. Et à l'époque, c'était la liberté, parce que l'on jouait à Gourdane, à imaginer qu'on prenait des bateaux d'assaut, ou qu'on faisait des cabanes, que, bon, bref. C'était très propice à l'imagination et à des jeux d'enfants, quoi.
Passer la porte. Vous êtes sur l'aire de Gourdane. Marchez. Respirez. Admirez. Écoutez.
L'aire de Gourdane est un grand mystère. C'est en 1632 où on a commencé de calader les chemins d'accès à Gourdane. Calader, c'est un système d'empierrage des chemins, beaucoup plus rarement des grandes places. C'est un système d'empierrage où les pierres sont posées dans le sens de la hauteur. Bon, comme dans l'association, on est un peu fou, on a commencé à rénover tout ça. J'ai très mal au dos. On calade surtout des chemins ou des rues. Et on fait d'abord le pourtour, les côtés, et le nez de la marche. Mais avec des pierres très profondes, qui font facilement 30 cm de profondeur. Et l'intérieur, entre ces raidisseurs, on fait surtout du remplissage. Mais les raidisseurs servent énormément, ce qui fait que s'il y a une dégradation, ça s'arrêtera aux raidisseurs. Parce que les pierres de caladage, elles font ici à Saint-Julien, elles ne sont pas très profondes, une quinzaine de centimètres maximum. Et quand on faisait des grandes places, comme l'aire de Gourdane, on mettait quand même des raidisseurs. C'est pour ça qu'on voit tous ces traits qui traversent. On a donné beaucoup d'interprétations qui sont tout autant fantaisistes les unes que les autres, mais ces grands traits qui traversent sont tout simplement des raidisseurs. Une chose qui est assez intéressante, que nous sommes en train de découvrir, c'est que tout cet empierrage, qui est immense, tout cet empierrage a été fait de manière à récupérer les eaux de pluie. Si on regarde tout le long de Gourdane, il y a un caniveau qui circule, qui récupérait les eaux de pluie.
Le village est implanté sur un éperon rocheux, assez long, qui fait dans les 800 mètres de long. Cet éperon rocheux, il y en a la moitié qui est habitée à l'intérieur des remparts, et l'autre moitié, c'est l'aire de Gourdane, et c'est inhabité. Alors déjà, c'est une approche urbaine assez singulière, où on prend la moitié du site disponible, on se serre dans cette moitié, mais vraiment les uns contre les autres, on met des remparts autour, et à côté, on garde l'autre moitié avec du vide. Cette volonté d'avoir du vide est quelque chose qui, en urbanisme, me sidère. Parce qu'en général, on occupe tout le terrain, quoi. Là, il y a ce côté un peu singulier. Et du coup, ce vide a été dallé avec des pierres pour faire du caladage. Et les formes urbaines anciennes, il n'y avait pas que le fonctionnel. Certes, ils construisaient avec beaucoup d'intelligence pour l'effort minimum et le reste, mais il y avait aussi la belle figure. Il y a des petits détails, par exemple, la porte dans les remparts qui donne sur l'aire de Gourdane et dans l'axe du Mont Ventoux. Peut-être que c'est le hasard et que personne n'y a pensé, mais on peut aussi se dire que les gens qui ont décidé que là, il y aurait une porte, ils ont pris la direction du Ventoux parce que symboliquement, ça racontait quelque chose, etc. Donc, on peut essayer de réinventer l'intelligence des anciens en trouvant des traces. Il y avait une espèce d'intelligence du paysage qui apparaît souvent. Et ici, je trouve que l'aire de Gourdane est un bel exemple d'aménageurs, de constructeurs, qui n'ont pas gaspillé tout le terrain en bâtissant un peu de tous les côtés, qui sont concentrés sur un lieu. Et le reste, ils ont géré le vide de manière intelligente avec un calcul de nivellement, un dallage et l'horizon.
Giono rencontre Saint-Julien.
Je faisais ces réflexions sur la terrasse d'une maison, au sommet de Saint-Julien-le-Montagnier.
La forêt d'Yeuze encercle étroitement le pied du rocher qui porte le village.
Elle s'étend sur une bonne centaine de kilomètres carrés.
On la voit de haut, parcourue par une route déserte, filant vers les massifs de bronze qui, à l'horizon, sépare ce pays de la mer.
Si j'ai choisi cet endroit, c'est qu'il est comme un belvédère d'où se découvre toute la Haute-Provence et qui permet un peu de géographie.
Ma vue, jusqu'à ce côté-là, va jusqu'à la pyramide du Mont Viso. Remontant vers le nord-est, s'allongent les uns contre les autres et s'étalent les uns au-dessus des autres.
Le Grand Béra, le Parpaillon, le Mont Pelat, le Mercantour, les Trois Évêchés, Alos, l'Embrunet, le Pelvoux.
Glacé, cassé, blanc sur le ciel noir, comme du sucre dans un sucrier d'opaline sombre.
L'air d'une pureté sans égale fournit au corps une alimentation ardente
qui pousse à la démesure, qui pousse à la démesure.
Toutes les nuits, le vent gronde comme la mer.
C'était Histoire d'eau de Saint-Julien-le-Montagnier, une promenade sonore proposée par le Parc régional du Verdon, coproduite par Radio Grenouille. Nous remercions toutes celles et ceux, habitants, écoliers, professionnels, responsables d'associations, élus, de bien avoir voulu nous rencontrer et nous abreuver de leurs petites et grandes histoires. Cette promenade était réalisée par Pascal Messaoudi et Nelly Fléchère. Retrouvez les histoires d'eau de Saint-André-les-Alpes et Baudouin sur le site www.promenadeaupluriel-sonore.com.